Bonjour à tous. Des chiffres préoccupants dans certaines communes et notamment à Agde dans les Bouches-du-Rhône. Un bilan qui grimpe légèrement. Le Covid-19 se propage en France en cette rentrée, mais justement, cette rentrée pourrait nous offrir une stabilité. Explication à suivre. Vous entendrez ensuite comment Jean-Luc Mélenchon dit ne pas être candidat à la présidentielle 2022 pour le moment, tout en posant les bases. Fin de journée d'été de la France insoumise hier. Nous irons en Californie, où les incendies ne faiblissent pas, bien au contraire. Trois feux font déjà partie des plus graves de l'histoire de cet État américain. Notre correspondant nous racontera. Et puis nous donnerons la parole à un défenseur de la chaîne de télévision qui ne l'a plus la parole. France O s'est arrêtée cette nuit à minuit. La vitrine des Outre-mer n'était pas rentable, explique France Télévisions. En cette rentrée, pour certains, le nouveau coronavirus gagne encore du terrain. 4897 nouveaux cas en 24 heures hier en France, du jamais vu depuis le déconfinement au printemps. Les retours des vacances font craindre le pire. Et pour s'y préparer, les brigades des caisses primaires d'assurance maladie sont en train d'être renforcées. Elles sont chargées de retrouver les personnes en contact avec un cas positif. Le retour au travail ou à l'école ces prochains jours pourrait être positif, selon le directeur de la CPAM de Caen. Jean-Joseph Robineau se veut optimiste et il s'explique ce matin.
La rentrée nous conduit tous à revenir dans un environnement mieux maîtrisé, avec une connaissance plus fine dans les semaines qui viennent des gens avec lesquels on a été en contact. Parce que quand on est en vacances, malgré tout, il y a quand même des rassemblements, il y a des lieux où on n'est pas forcément complètement certain d'avoir identifié tous les acteurs, ou même on ne les connaît pas vraiment, avec qui on est en contact. Et tout ça, c'est quand même un environnement inhabituel. Alors que là, on va revenir dans un format plus conventionnel, avec des mesures structurantes et structurées dans les entreprises. Et Dieu sait si aujourd'hui, on met fortement l'accent pour prendre un maximum de précautions sur les lieux de travail. Je pense que là aussi, sur les transports en commun, on continue à renforcer. Donc globalement, c'est quand même plus stable. Et moi, ça me laisse penser qu'on devrait être plus à l'aise pour éviter cet emballement.
Voilà ces propos plutôt positifs, recueillis par Hélène Chevalier pour cette rentrée 2020. La lutte contre le Covid-19, c'est d'ailleurs la priorité de ces jours-ci. Le plan de relance économique est décalé. Il ne sera détaillé que la semaine prochaine sur décision du gouvernement français. En politique, Jean-Luc Mélenchon prend date. En clôture des journées d'été de la France insoumise hier, le chef de file du parti n'a pas dit s'il était candidat ou non pour la présidentielle 2022. Il prendra sa décision à l'automne, mais sa candidature est très probable, Sarah Tuchérère.
Un discours de clôture de près de 2 heures, de quoi montrer qu'il n'a en rien levé le pied. Ses amphis n'étaient ni le lieu ni le moment pour une déclaration de candidature. Jean-Luc Mélenchon l'a expliqué. Il aurait été indécent, ridicule de parler de casting alors que la crise sociale post-Covid s'annonce. Mais le suspense ne durera pas longtemps.
Je prendrai ma décision au mois d'octobre. Auparavant, je consulterai en profondeur chacun de mes amis. Car j'ai besoin, pour savoir ce que je dois faire, d'avoir la certitude que les premiers qui me porteraient, le cas échéant, seraient mes camarades.
Pour l'heure, les camarades le soutiennent. Il a l'expérience et la notoriété. Il est le meilleur, clament en chœur proches et militants. Un autre scénario, une candidature réunissant plusieurs forces de gauche, est-elle encore possible? La venue aux amphis du maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, partisan d'un arc allant de la France insoumise au PS, a redonné un peu de crédit à cette hypothèse. Réelle volonté de trouver un terrain d'entente ou démonstration destinée à écarter les procès en sectarisme souvent faits à la France insoumise au sein même de la gauche. Les semaines à venir le diront.
Les rues de Minsk étaient encore constellées de drapeaux rouges et blancs hier, brandis par des dizaines de milliers de manifestants anti-gouvernementaux, c'est en Biélorussie. La crise politique y dure depuis le 9 août dernier, depuis la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko. L'armée indique maintenant qu'elle assurera directement le maintien de l'ordre et la protection des monuments en lieu et place de la police. Au Mali, c'est la junte qui a pris le pouvoir en début de semaine et elle annonce une transition de 3 ans dirigée par un militaire. Elle accepte dans le même temps de libérer le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, emprisonné depuis mardi. Nous reviendrons sur ces événements et sur l'avenir politique au Mali avec le retour joyeux de Julie Gacon en cette rentrée pour les enjeux internationaux, toujours à 6h40. Avant cela, partons quelques instants de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, où les centaines d'incendies progressent toujours sur le terrain californien. Les conditions météo ne s'arrangent pas, avec des vents qui se lèvent, des éclairs qui pourraient déclencher de nouveaux départs de feu. Notre correspondant Loïc Piala nous raconte.
La vidéo a fait le tour des télévisions américaines. Deux pompiers coincés sur une colline et héliportés en pleine nuit, alors que les flammes se rapprochent dangereusement. Un exemple des conditions difficiles auxquelles font face 14 000 soldats du feu débordés, explique un de leurs chefs à la chaîne NBC. Ces gars-là sont sur le terrain 48 heures, 72 heures d'affilée, précise-t-il. Ils ont besoin de repos et c'est ce qu'on essaie de leur donner. C'est important de prendre soin d'eux. Et des renforts arrivent d'une dizaine d'États. La garde nationale et l'armée ont aussi mobilisé des hommes et des moyens aériens. En attendant, des habitants comme Will Cook luttent contre les flammes avec de simples seaux d'eau. On fait le tour du quartier, raconte-t-il, on inspecte les maisons, on cherche des départs de feu à éteindre. Plus de 100 000 personnes ont reçu un ordre d'évacuation. Ricardo commence à en avoir l'habitude. On a l'impression que c'est un incendie record chaque année, dit-il. Honnêtement, c'est pénible, surtout qu'on a déjà déménagé de l'autre côté de la ville à cause d'un autre incendie l'an dernier. En une semaine, le SCU Complex et le LNU Complex dans la région de San Francisco sont devenus les deuxième et troisième feux les plus importants de l'histoire de la Californie.
C'était Loïc Piala à Los Angeles pour France Culture. Un mot de football ce matin et cette marche historique que le Paris Saint-Germain n'a pas su franchir. Le club parisien s'est incliné 1-0 en finale de la Ligue des Champions hier soir. Son président, le Qatari Nasser El Khelaifi, s'est quand même dit fier de son équipe. Il faut dire que cette épopée a permis au Qatar de faire oublier les zones noires de son histoire sportive. Le Qatar détient le Paris Saint-Germain, je vous le rappelle. Jean-Baptiste Guégan, enseignant géopolitique du sport, spécialiste des pays du Golfe, expliquait cette épopée hier soir sur France Culture.
Depuis à peu près 2 ans, lorsqu'on parle du Qatar, on parle des choses négatives. C'est-à-dire, je vous parlais du semi-échec des championnats du monde d'athlètes à Doha en 2019, mais il y a aussi la question des travailleurs étrangers, la surmortalité sur les chantiers, la crise du Golfe. Donc autant d'éléments négatifs qui finalement nuisent à l'image de modernité que veut diffuser le Qatar. Avec cette finale-là, il y a une possibilité de communiquer pendant de longs mois. Et donc là, on est dans un des objectifs du soft power tel qu'on le définit. C'est-à-dire que vous maîtrisez le calendrier international et vous maîtrisez la narration autour. Et donc derrière, c'est vous qui maîtrisez la séquence et vous racontez ce que vous voulez. Et donc, pour un pays qui va justement préparer l'après, c'est idéal. C'est pas simplement les supporters du PSG qui seront ravis, c'est tout un pays. Et c'est là où on voit ce qui est devenu le PSG pour le Qatar, c'est-à-dire une deuxième sélection nationale.
C'était Jean-Baptiste Guégan, interrogé par Mathieu Laurent. À ne pas oublier enfin... la fin de France O cette nuit. À minuit tout à l'heure, l'écran était noir sur le canal 17 de la TNT, le canal 19 de la TNT. La direction de France Télévisions évoque de trop faibles audiences, mais les journalistes et les téléspectateurs dénoncent une invisibilité grandissante des Outre-mer à la télévision. Hier, le collectif Sauvons France O s'est mobilisé devant le ministère de la Culture. Rien n'y a fait. Écoutez, Kant Lebeau à l'initiative de ce collectif, il voit dans cette fermeture de la chaîne un déchirement, voire une forme de maltraitance.
En tant que téléspectateur et en tant qu'ultramarin, c'est un gros déchirement puisque depuis l'âge de 10 ans, je suis en Hexagone. Je suis né en Guadeloupe et si vous voulez, j'ai vécu avec France O, cette chaîne, a grandi avec moi en même temps. Et à chaque fois qu'on voulait savoir ce qui se passait dans nos départements territoires, on se précipitait sur France O et c'était devenu une partie de nous, vous voyez, c'était dans notre ADN. Et le fait qu'on nous enlève cette partie de notre ADN, ça nous fait réagir très très fortement. Et on est très très en colère. On est très très en colère parce qu'on considère que c'est une forme de maltraitance, c'est une forme d'injustice. Une maltraitance de plus, pourquoi ? Parce que après nous avoir empoisonnés à la chlordécone, après nous avoir ne pas avoir traité les sargasses, aujourd'hui, Franco, sa fermeture, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui nous fait dire que les ultramarins ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante de cette République, de cette France.
Des propos recueillis par Sarah Ders pour France Culture. Le temps ce lundi sera nuageux, voire très nuageux, des pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France, avec quelques gouttes possibles au nord de la Seine. Ailleurs, de belles éclaircies sont prévues par Météo France. Le soleil sera même généreux sur le sud-est et en Corse. C'est là qu'il fera d'ailleurs le plus chaud aujourd'hui. 23 degrés à Bastia et à Marseille, comptez 20 degrés à Lyon, 17 degrés ce matin à Bordeaux et Strasbourg, 16 à Paris et Lille, 14 degrés dans la matinée à Rennes.